et réguliers sur le dos du jeune homme, chacun d'eux laissant sur sa peau une trace d'un rouge vif et humide. Le grand inquisiteur leva alors la main droite d'une manière qui voulait dire « il suffit », puis s'avança vers Robin avec une terrible nonchalance. « Parleras-tu, mon garçon ?» Mais tout ce qui sortit de la bouche de l'apprenti fut un peu de salive et de sang. Humbert rabaissa la main et reprit sa place au pied de l'une des statues. Le geôlier donna encore plusieurs coups de fouet. Puis il fit volte-face et se dirigea vers un brasier dont il extirpa une longue pince au métal rougi par le feu. L'apprenti, déjà éreinté, sentit son cœur s'arrêter en voyant l'homme revenir vers lui.
« Je vous en supplie, »
bégaya-t-il d'une voix implorante. Mais l'inquisiteur fit signe que l'on continue. La pince brûlante fut portée à la hauteur de sa poitrine, et avant même qu'elle ne le touche, Robin en éprouva déjà la chaleur. Quand le fer écarlate se posa contre sa chair, le jeune homme hurla plus fort qu'il n'avait jamais hurlé. La peau brûla, soulevant un petit nuage de fumée. Humbert s'approcha de nouveau.
« La prochaine étape, Robin, ne consiste plus seulement à poser la pince sur ta peau, mais à s'en servir pour t'arracher des bouts de chair. Alors, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne nous oblige pas à en arriver là et dis-moi ce dont Saint-Loup et Maître Eckhart ont conversé. »
Le jeune apprenti ferma les yeux, mais son esprit s'emplit aussitôt d'une image aux contours nets et précis. Et cette image était le visage de Magdala. Son visage dans les derniers instants. Tout comme Lambert et Marguerite avant elle, la penante était morte en épousant une cause qui ne la concernait même pas. Elle était morte en protégeant Andreas. Et à présent, le jeune homme se demandait si cela en avait vraiment valu la peine. Le secret derrière lequel courait son maître, méritait-il donc qu'on mourût pour lui? Combien de morts pouvait-on tolérer dans une pareille quête de la vérité? Robin n'était pas certain de pouvoir répondre à ces questions. Mais il ne voulait pas non plus, soudain, ôter tout sens à ses sacrifices en les rendant, lui, inutiles. Certes, il ne pouvait être sûr que la mort de Lambert, Marguerite et Magdala allait servir à quelque chose, mais, en revanche, une chose était certaine. S'il parlait, elle n'aurait servi à rien. Et ainsi donc, Robin Meissonnier ne parla toujours pas. Humbert le regarda avec un sentiment d'étonnement, qui semblait indiquer qu'il n'avait pas d'ordinaire pour ses victimes une grande considération à l'endroit de leur résistance. Et alors sa cruauté féroce put se donner libre cours. Chapitre 81. Andreas entra dans le bourg à l'ouest d'Orléans, sur le cheval que lui avait prêté le maître de carrière, et ayant troqué ses habits de pèlerin contre des vêtements plus ordinaires et dissimulé son crâne chauve sous un large couvre-chef, il espérait qu'on ne le reconnaîtrait pas. Il suivit avec attention les indications que lui avait données le carrier, traversa un premier groupement de maisons, et arriva au milieu de la matinée devant la demeure qui vraisemblablement était celle de Colin, cet ancien templier devenu charpentier. Après avoir attaché sa monture, il frappa à la porte principale de cette petite bâtisse, qui, comme on le lui avait expliqué, abritait aussi l'atelier de l'artisan. Une femme vint alors ouvrir la porte, et elle avait la mine sombre et soucieuse. Voyant qu'elle ne présentait aucune ressemblance avec l'homme qui l'avait sauvée, Andreas en déduisit qu'elle n'était pas sa sœur ni même une cousine, mais plus probablement son épouse. En quittant l'ordre du temple, l'ancien moine avait donc pris femme. « Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je voudrais savoir si Colin est ici. »« Qui êtes-vous ? » Andreas hésita. « Un ami. »« Je connais les amis de mon mari, qui sont à présent peu nombreux, et vous, je ne vous connais pas. » Une voix grave et fatiguée s'éleva alors derrière la petite femme de l'autre côté de la maison.
« Laisse-le entrer, c'est lui. »
L'épouse du charpentier fit une mauvaise figure, puis, comme un contre-cœur, laissa passer l'apothicaire et referma prestement la porte derrière lui. Sans dire un mot, elle désigna une couche au bout de la pièce, où Andreas aperçut l'ancien templier qui semblait au plus mal. Au teint de sa figure, on voyait qu'il avait perdu beaucoup de sang, et son bras était entouré de linge rougi.
« Que s'est-il passé ? »